Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Franchement dit.
Hey, je leur ai pas dit l'histoire du mariage. C'est lui qui l'a dit.
C'est lui. Il a mis les cartes, toutes les cartes sur la table.
Ah, c'était drôle, là. Tout le monde dans l'église qui regarde arriver en retard pendant que le prêtre est en train de faire son petit laïus. C'était très, très drôle. J'adore Harold Fortin. Vous aurez beaucoup de plaisir à le lire et à l'entendre. Maud, on va faire un peu d'actualité. Commencer par une nouvelle de dernière heure qui touche les questions de distanciation sociale dans les garderies.
Ouais, les enfants qui fréquentent ces milieux-là n'auront plus besoin de se tenir à 2 mètres les uns des autres à compter de lundi prochain. C'est Radio-Canada qui relaie tout d'abord l'information, faut le mentionner. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, va faire l'annonce en bonne et due forme plus tard aujourd'hui. Ce sera bon, cette nouvelle directive-là, pour l'ensemble du Québec. La direction de la santé publique aurait donné le feu vert pour éliminer la règle de distanciation entre les enfants d'un même groupe d'un maximum de 10 enfants. Ils vont aussi pouvoir recommencer à utiliser du matériel qui était difficile à désinfecter puis qu'on avait décidé de carrément enlever. Les livres, les blocs, les doudous, les affaires de même, on va pouvoir réintroduire ça. C'était une règle, la distanciation entre ces petits-là qui était difficile à appliquer. Donc, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être contents de les voir disparaître, notamment les éducateurs, les éducatrices qui, eux aussi, vont pouvoir être en contact direct avec les enfants du groupe. Oh. Avec les collègues, on maintient la distanciation, mais avec les enfants, il n'y aura plus de problème. Évidemment, on continue à porter l'équipement de protection, donc le masque, la visière, ça, c'est toujours en vigueur. Le ministre Lacombe qui devrait aussi annoncer que les services de garde à l'extérieur du Grand Montréal, de Joliette et de l'Épiphanie, on va pouvoir dès lundi accueillir le nombre maximal d'enfants. Montréal, ce sera, et les alentours, là, ce sera le 13 juillet et... Dernière affaire, les parents qui ont une place en service de garde et qui décident de pas envoyer leur enfant vont devoir recommencer à payer le 8,35 $ par jour dans les garderies subventionnées.
Ben, à un moment donné, OK. À partir du moment où le reste de la société pas mal reprend son air d'aller aussi, on peut pas là subventionner, payer dans le vide non plus. Là, je pense que ça fait déjà un bon moment que le gouvernement assurait ces tarifs-là pour conserver les places, mais à un moment donné aussi, les gens devront faire un choix. Alors, de bonnes nouvelles. Moins bonnes nouvelles, ça touche André Boisclair. Et ça s'ajoute, là. On rajoute par-dessus la pile. Là, il y a une autre plainte. Pas d'accusation pour l'instant, mais une autre plainte qui a été logée à la police.
On se monte un bon dossier, puis je faisais l'illustration à Félix en lui parlant ce matin. Je disais, c'est comme, tu sais, les clowns ont un foulard infini, là. Ça arrête pas de sortir, ça sort tout le temps. J'ai l'impression qu'André Boisclair, ben c'est un peu ça. On a ouvert la boîte, puis là, ben le foulard arrête plus de sortir. André Boisclair est visé donc par une nouvelle plainte criminelle. Ça a été déposé récemment à la police de Montréal par un jeune homme qui affirme avoir été agressé sexuellement par l'ex-chef péquiste. C'est notre bureau d'enquête qui sort ça aujourd'hui au journal. Hugo, c'est un nom fictif, a rencontré le 8 juin un enquêteur du SPVM à propos du fait que ce serait, selon lui, survenu vers 2017 chez Monsieur Boisclair. Il affirme qu'il était à la mi-vingtaine quand il a connu André Boisclair il y a 3 ans à travers des événements qui étaient organisés à Montréal par la communauté homosexuelle. Monsieur Boisclair aurait ensuite initié un contact avec lui par messagerie et sachant que Hugo avait perdu son emploi, il aurait offert son soutien financier en échange d'une relation sexuelle. Ah. Hugo était mal à l'aise. Il a quand même accepté une invitation à sa résidence, mais tu sais, lui dit, je voulais simplement le rencontrer, prendre un verre, mais il voulait pas qu'il se fasse d'attente au niveau sexuel. Après avoir, selon lui, bu 3 verres d'alcool, consommé de la cocaïne aussi avec Monsieur Boisclair, Hugo se serait pourtant retrouvé dans son lit sans trop savoir comment. Il se sentait étourdi. Il dit, il me proposait de me fouetter, de me frapper, me faire des marques sur le corps et je voulais pas ça. Hugo soutient que M. Boisclair a ignoré son refus d'un rapport sexuel, mais Boisclair a insisté. Hugo aurait insisté, en fait. On peut pas, c'est des accusations, là. Il n'y a pas eu de...
Oh oui, c'est ça. Tout ça demeure être non seulement prouvé en cours, mais même analysé au premier stade par la police. Ce sont des allégations.
Oui, exactement. Donc, Hugo dit qu'il n'a pas de preuve que M. Boisclair lui a administré quoi que ce soit qui aurait pu altérer son jugement ou ses perceptions, mais dit devant l'état dans lequel je me trouvais au moment de l'agression, lui soupçonne qu'il a pu être drogué à son insu. Selon une source policière, ministère, les allégations sont prises au sérieux. Il y a 3 enquêteurs qui ont été mandatés pour la suite des choses. Il y a une rencontre aussi qui est prévue la semaine prochaine par le SPVM avec Hugo pour examiner quelles accusations pourraient être portées contre M. Boisclair. Puis on apprend aussi là, via le bureau d'enquête aujourd'hui qu'André Boisclair envoyait des textos non sollicités à notamment des personnes avec qui il entretenait des relations professionnelles, des textos à connotation sexuelle. Ouais. Un en 2012, l'autre en 2016. On rapportera pas les propos parce que c'est pas nécessaire. Je terminerai en rappelant que André Boisclair est accusé d'agression sexuelle armée dans un autre dossier dont les faits allégués seraient survenus en 2014.
Ouais, sans oublier toute l'histoire entourant évidemment la plainte lorsqu'il était délégué du Québec à New York. Je sais pas, moi, dans les histoires, l'histoire de texto, moi, il y a une autre histoire qui m'a été racontée de propos comme ça auprès d'un employé politique, que ça se serait rendu jusqu'en haut lieu. Bref, tout ça, c'est parce qu'il y a comme un modus operandi qui
se dégage. Il y a un pattern.
Qui fait mal. Okay. Une nouvelle qui touche quand même Québec, mais qui est significative. Là. Quand on dit qu'il y en a qui s'en sortiront pas ou qui vont avoir beaucoup de difficultés à se relever suite à la pandémie, là, il y a un des restaurants les plus réputés de la Grande Allée, là, une institution, voilà le terme que je cherchais, la Grande Allée, qui, sans dire, vont fermer tous leurs portes. En tout cas, la succursale de Québec, elle, va fermer.
Ouais, ça fait 25 ans qu'ils ont pignon sur rue, le Cosmos sur Grande Allée. On ne va pas réouvrir. Pourquoi? Annulation du festival d'été, c'est une énorme perte de revenus. Il disait que l'affluence de touristes dans son restaurant, ça pouvait payer jusqu'à 2-3 mois de loyer dans son année. On parle donc justement de l'absence de tourisme qui va frapper dur pour les commerçants et les restaurateurs de la Grande Allée. Aussi, les employés qui préfèrent la PCU. Le copropriétaire Louis McNeil dit que depuis 2-3 ans, il utilise le terme break-even. Donc, toute la situation actuelle, pour lui, ça rend impossible de poursuivre l'aventure. Il parle d'une décision pour assurer carrément sa survie. C'est pas une décision de cœur. C'est pas parce qu'il voulait le faire. C'est parce qu'il avait pas le choix. Il a perdu des employés qui sont allés travailler dans les 3 autres restaurants qui sont toujours ouverts sur Grande Allée. Les autres préfèrent la PCU. Lui, il dit, en septembre, ils vont tous se chercher une job. Mais c'est en septembre que les restos vont péter, j'utilise ces termes. Louis McNeil parle aussi des habitudes de sortie et de consommation qui ont changé. Il dit, c'est fini la haute ville, les jeunes, ça sort en basse ville, puis dans un sens, oui. C'est un mouvement qu'on a beaucoup remarqué, c'est rendu à la basse ville. On annonce aussi du même coup que le Cosmos de Lévis a été vendu. On veut se concentrer sur les restaurants Cosmos de Sainte-Foy, de Le Bourgneuf, aussi sur le district rue Saint-Joseph, ça leur appartient. Et c'est pas le premier restaurant qui ferme sur Grande Allée dans les dernières années. Le Ashton, le Savigny, Manon du Spaghetti, le McDonald's, j'en oublie peut-être.
Il faut quand même faire la part des choses. C'est qu'il y a beaucoup de restaurants dans ceux que tu viens de nommer qui étaient associés aux fins de soirée. T'sais, c'est-à-dire soit des places où, comme mettons, Maurice, tu sortais ou au Dang, tu allais danser, etc. Et à la fin, tu finissais ça avec une poutine au Ashton ou un trio Big Mac au McDo. Mais ça, le nightlife, c'est vrai qu'il a évolué.
Ouais.
Mais écoute, tu vas faire un tour du côté de l'atelier ou de l'Ophélia, là. Nos amis de l'atelier, là, c'est toujours plein.
Oh oui, il y a du monde.
Tu sais, le grand café, ça continue à marcher au bout. Il y a quand même beaucoup de places qui réussissent à s'en tirer, mais la fermeture du Cosmos, ça vient vraiment illustrer à quel point c'est difficile la situation actuelle. Alors, bonne chance aux employés qui, souhaitons-le, vont pouvoir se replacer dans d'autres Cosmos de la région de Québec. Merci Maud, on va faire une pause et on revient, bougez pas.